France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Une grève à la RATP, tout francilien sait ce que c'est. Mais des lignes fermées, c'est beaucoup plus rare. Cet après-midi, vous l'avez entendu dans les journaux, les professions, des professions aussi diverses que les infirmières, les pilotes de ligne, les avocats, ont marché pour qu'on préserve leur régime propre. Là-dessus, viendra se greffer samedi, ce que les Gilets jaunes ont déjà appelé leur rentrée. Et puis, mardi, une journée d'action menée cette fois par la CGT. Bref, le gouvernement devait bien imaginer que le sujet des retraites allait faire tanguer l'opinion. Est-ce pour autant le cas avec tous ces mouvements, avec aussi d'ailleurs les urgences en prime depuis l'été? Est-ce que tout cela serait de nature à paralyser la France, comme en 95, ou est-ce que chacun est dans son précaré? Certains syndicalistes ou opposants politiques parlent de cette fameuse convergence depuis maintenant 2 ans, et jusque-là, elle n'est jamais venue. Est-ce que, quand même, on marche sur des œufs du côté de Matignon ou de l'Élysée en ralentissant la vitesse de la réforme? Ça, c'est clair. On discute en tout cas de tout ça ensemble et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Nicole, bonsoir. C'est vous la première, Nicole. Soyez la bienvenue.
Bonjour. Je vous contacte parce que j'ai ma fille qui est infirmière et donc il est question d'augmenter le prélèvement en ce qui concerne les retraites. Donc, je vais quand même vous lire un mail que m'a envoyé ma fille. Elle met « Si nous devons être imposés au même niveau que tout le monde, ce qui n'était pas le cas, parce que en fait, elles avaient des faibles rémunérations, il va falloir étendre l'équité et mieux les rémunérer, les infirmières. »
On a compris le message. Si on change le système, il faut que les salaires soient meilleurs. Et sinon, au fond, c'est pas juste. Merci beaucoup, Nicole, et merci à votre fille aussi qui vous a donc envoyé cette question pour y répondre et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Françoise Fressos est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste politique au Monde, évidemment. Éric Heyer est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en économie, directeur du département analyse et prévision de l'EFCE, notamment enseignant, à Sciences Po. Et bonsoir à vous, Laurence Perron.
Bonsoir.
Du service politique de France Inter, en charge des questions sociales. Éric Heyer, c'est aux spécialistes que je m'adresse. Ce qu'on a beaucoup entendu, notamment cet après-midi, on l'a entendu différemment vendredi pour la RATP, cet après-midi, au fond, c'est « moi, je suis perdant là-dedans ». Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que telle que cette réforme est faite, il y aura effectivement des gagnants, je ne sais pas, ou en tout cas des perdants?
Il y aura forcément des gagnants et des perdants. Ça, c'est inévitable. Et ce,
donc, qui gagne, qui perd?
Oh, alors, ça va être très compliqué à le dire en un mot. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est les équilibres globaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, le gouvernement s'est mis une contrainte supplémentaire dans cette réforme, c'est que le poids des retraites dans le PIB ne doit pas dépasser 14 points de PIB. Et donc, vous voyez, une fois que vous mettez ça comme contrainte dure et que vous avez bien en tête le vieillissement de la population et l'espérance de vie, vous allez dire on va être de plus en plus nombreux à se partager 14 points de PIB. Et donc forcément, plus nombreux à se partager la même somme, il y aura globalement plus de perdants que de gagnants. Alors ensuite, il va falloir rentrer dans le détail de qui peut quand même y gagner. Et là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois une réforme systémique, c'est-à-dire qu'on passe d'une réforme qui était plutôt par annuité à une réforme par points. Et donc avant, c'était calculé sur les 25 meilleures années ou les 6 meilleurs mois à une réforme où par points, c'est on va regarder toute votre carrière. Donc si vous avez une carrière ascendante, vous allez y perdre parce qu'on va aller rechercher au tout début de votre carrière le fait que vous n'avez pas beaucoup cotisé et donc du coup vous allez avoir une pension plus faible. En revanche, certaines personnes, notamment on peut penser à certains fonctionnaires et des hauts fonctionnaires qui avaient une prime, là cette prime ne leur avait pas de droit à la retraite, il y aura des droits. Donc c'est un peu compliqué à répondre en un seul mot.
Mais sur certaines professions, en revanche, c'est ce qu'on dit ce matin, par exemple, les avocats, avec un certain nombre d'arguments qui avaient l'air assez clairs, est-ce que typiquement, quand on est comme ça dans un régime très spécial, quand on est fondu dans la masse, on va dire, on perd de l'argent, oui ou non?
Pas forcément, mais avec la contrainte fixée par le gouvernement, oui, il y a des grandes chances. Et ce que nous disent tous ces régimes spéciaux, c'est que globalement, ils avaient des réserves, et des réserves qui étaient excédentaires. Et donc, ces réserves excédentaires, ça leur permettait quand même d'avoir un petit matelas au cas où. Et ben, ce matelas va disparaître. Et donc, se disent, eux, on se fait un peu spolier. C'est-à-dire que on avait bien géré, on avait des réserves excédentaires. Et là, vous nous dites qu'on va mettre ça dans un pot commun. Et sans doute là, ben, du coup, on va complètement diluer cet effet qui nous était réservé.
Bah, du coup, une dernière question pour vous, avant évidemment de faire un tour de table, on a la question de Maxime qui va avec ce que vous venez de dire et qui demande est-ce qu'il est juste de mettre au pot commun, au fond, les montants de ces fameux cas spéciaux. Les avocats sont aujourd'hui ont parlé de leurs 2 milliards d'excédents. Il y en a d'autres aussi. Qu'est-ce qu'on fait de cet excédent? On le met dans le pot commun? C'est comme ça que ça va se passer?
Alors, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, est-ce que c'est juste? C'est compliqué comme question, mais on voit bien que d'un point de vue de la loi, en tout cas, on a le droit de le faire, puisque ce sont des prélèvements obligatoires, et puisque ce sont des prélèvements obligatoires, ben c'est l'État peut l'utiliser. Est-ce que politiquement ça va passer? Ça va être très compliqué parce que effectivement ces personnes disent ben on a fait des efforts pour avoir ces réserves et donc c'est pour notre profession et pas pour tout le monde.
Françoise Fressoz, est-ce qu'il y avait urgence du côté du gouvernement à mettre cette retraite et surtout à la faire de manière aussi large en fait?
Alors c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et il y a eu un débat assez vif cet été au sein du gouvernement où au fond les ministres quand ils ont étudié les dossiers et étudié les répercussions sur les troupes qu'ils avaient notamment à gérer se sont dit mais c'est une réforme très très délicate. Et Emmanuel Macron a tranché en disant j'ai été élu pour transformer les systèmes sociaux français et je pense que les Français sont suffisamment matures pour comprendre ce qui se passe.
Donc c'est une réforme de principe au-delà même d'une obligation
ça
économique
va
du moment. On va dire.
Exactement dans ce qu'il a fait toute la campagne présidentielle était un peu sur l'attaque du corporatisme social et l'idée qu'au fond, il fallait aller vers un système plus transparent. Et son idée aussi, et qui était déjà dans la campagne de 2017, c'était l'idée de dire, si on continue comme ça, les jeunes vont décrocher. C'est-à-dire, on va avoir un décrochage générationnel. Il n'y a pas un jeune aujourd'hui qui pense que sa retraite s'est financée, parce qu'il y a le vieillissement de la population, et qu'on entre dans la vie active beaucoup plus tard, et qu'il faut impérativement aller vers un système plus transparent et plus juste. Et ça a été le travail de Jean-Paul Delevoye pendant 2 ans, d'essayer avec les partenaires sociaux de partir sur cette idée de est-ce qu'on peut essayer de sauver un minimum de système de retraite par répartition en faisant en sorte que le système soit plus équitable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes infirmière, vous avez 4 statuts différents. Mmh. Et donc, au même salaire, vous n'avez absolument pas la même retraite selon que vous êtes une infirmière libérale ou une infirmière salariée ou une infirmière qui est membre de la fonction publique hospitalière. Idem pour les conducteurs de car, par exemple. Si vous êtes ou pour un agent RATP qui n'aura pas du tout le même salaire. Mmh. Et donc, il y a quand même l'idée Delevoye est toujours parti sur l'idée de dire si on continue comme ça, on va au clash. Il va y avoir une explosion de la société parce que le système est trop injuste. Alors la difficulté, c'est que pendant 2 ans, il a un peu anesthésié tout le monde parce qu'il s'entendait bien avec les partenaires sociaux. Et là, ce qu'on découvre, c'est qu'au fond, il y a des perdants, effectivement. Les perdants, ce sont soit les régimes spéciaux qui ont eu des avantages à un moment. Par exemple, l'avantage de la SNCF, c'était De Gaulle qui remerciait les cheminots d'avoir été dans la résistance. C'était pas forcément obligatoire que ces privilèges continuent. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'un conducteur parte à 62 ans? Est-ce que la pénibilité de son travail est telle qu'il parte beaucoup plus jeune, pardon, à 52 ans plutôt que comme tout le
Mais
monde?
Mais est-ce que ça nous coûte cher, en fait? Est-ce que ça nous coûte si cher que ça, ces régimes spéciaux? Disons les choses clairement. Parce qu'effectivement, ce que dit Françoise, on le comprend, y compris sur la perception que l'opinion peut en avoir. Est-ce que ça nous coûte cher?
Ça dépend lesquels, en fait.
Est-ce qu'on peut dire, si on ne remet pas ces régimes spéciaux en ordre de marche, alors les gens non spéciaux, les régimes non spéciaux vont en pâtir ou pas?
Non, alors ça dépend, puisqu'il y a un grand nombre de régimes spéciaux qui sont excédentaires. Donc vous voyez, du coup, ils sont bien gérés. On a parlé des infirmières, les avocats, les médecins, même les transports aériens. Ils dégagent des excédents. Donc on ne peut pas dire que ça coûte au régime général. Et donc, du coup, le reste, effectivement, pour la RATP, c'est vraiment... C'est, oui, on peut considérer que ça nous coûte un peu plus cher. Et encore, il faudrait faire le calcul de façon très correcte, à savoir, globalement, c'est un contrat qui a été passé. Il est à peu près évident que le salaire d'un fonctionnaire à compétences données est légèrement inférieur à celui du privé, mais en contrepartie, ils ont des retraites qui sont légèrement supérieures. Donc vous voyez que dans la globalité, il faudrait prendre en compte le fait qu'il nous coûte moins cher en termes de salaire. Donc c'est ça où ça devient très compliqué. Et aujourd'hui, le système des retraites dans sa globalité, ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'il ne serait pas équilibré à l'horizon 2025, voire même à l'horizon 2050, mais d'un demi-point de PIB, ce qui n'est pas non plus considérable comme déficit.
Françoise Fressoz, est-ce que ça veut dire que là, pour l'instant, le gouvernement joue l'opinion, en fait. Si demain, réellement, on descendait dans la rue, les gens diraient non aux régimes spéciaux.
Alors là, ce qui est
Qu'il est sûr de pas se tromper?
Ce qui est magnifique, je pense que ce que joue un peu le gouvernement, c'est de se dire, bon voilà, ceux qui descendent dans la rue, c'est au fond ceux qui veulent défendre leurs avantages.
Chacun son pré carré.
Et donc, chacun va défendre son avantage, et peut-être qu'au fond, les Français vont s'apercevoir que le système est très injuste d'un régime à l'autre. En même temps, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand même la grève de vendredi, la RATP, qui était extrêmement suivie. Et donc, quand une profession se mobilise comme ça et a une capacité à bloquer quelque chose, il y a un risque. Donc, la stratégie de Édouard Philippe, c'est de dire, on fait la réforme, il y aura un projet de loi avant l'été, mais on vous promet que pour toutes les professions où il y a une difficulté, on va étaler dans le temps. La grosse difficulté, c'est que vous étalez dans le temps, ça peut même aller jusqu'à 2040. Vous imaginez que Macron, il sera peut-être plus là en 2040. Donc, quel est aussi, c'est là aussi que la réforme devient très compliquée, c'est-à-dire un nouveau gouvernement arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il continue l'harmonisation des régimes ou est-ce qu'il s'arrête et finalement on maintient un système comme ça? Donc c'est une réforme très très risquée.
Je ne vous ai pas oublié, Laurence Perron, je voudrais juste qu'on ait fait un tout petit aller-retour au standard, si vous le voulez bien. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
On vous écoute Alain, allez-y.
Donc moi je suis agriculteur, donc j'ai des associés qui arrivent en retraite, ils ont cotisé toute leur vie entre 500 et 1000 euros tous les mois et ils vont toucher que 100 euros de plus que le minimum vieillesse, à peu près 850 euros par mois. Donc on a capitalisé un petit peu, on a acheté du foncier. Manque de bol, Monsieur Macron et enfin Monsieur Sarkozy qui a allongé le temps des plus-values. Donc en gros, on est les dindons de la farce. D'un côté, aux comptises, on a une toute petite retraite, alors je vous dis pas le nombre d'heures. Et de l'autre côté, ce qu'on capitalise, pof, tout part en plus-value. Et ça, pour le coup, c'est un régime très spécial que peu de gens sont capables d'entendre.
Oui, pardon, j'attendais la suite, Alain, excusez-moi.
Ah oui, voilà.
Non, pardon, je vous en prie, merci. Merci de votre intervention dans le téléphone sonne et merci de ce témoignage. Ce que ça dit aussi, et c'est ça que qui est très compliqué, Éric Heyer, c'est ce que vous disiez à l'instant, il n'y a pas que 42 systèmes, il y a 1000 situations, et notamment, par exemple, des situations comme celle-là qui sont très particulières aussi.
Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Il faut essayer de. Alors, l'idée d'avoir un système universel est une idée assez intéressante. L'idée de se dire, est-ce qu'il faut aller vers une prestation vers un système de prestation définie ou de cotisation définie est aussi intéressante. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le système des retraites, il était plutôt basé sur on va assurer à la retraite un niveau de vie qui est relativement équivalent à celui des actifs. Et donc, il y a certaines personnes qui passaient justement à travers ces mailles-là, dont les agriculteurs. Mais on pouvait être sur l'idée que l'universel, c'est ça, c'est de se dire d'assurer à tout retraité un niveau de vie acceptable, alors soit par le minimum contributif, soit par un système qui serait un peu plus général. Là, on va vers un système un peu différent où ça va être plutôt des cotisations définies plutôt que des prestations définies. Et donc, on va aller vers un système où il va falloir effectivement avoir un deuxième étage qui sera de la capitalisation ou alors un troisième étage comme en Suède avec des entreprises qui abondent pour vous pour essayer d'avoir une retraite qui soit un peu plus confortable. Et c'est ça un peu le danger aujourd'hui de ce type de réforme.
Didier de Nogent-sur-Marne a entendu le début de la conversation tout à l'heure. C'est pour vous, Laurence Perron. On parlait tout à l'heure de l'ampleur de cette grève RATP qui avait été assez inédite. Est-ce que le gouvernement, demande-t-il, a été lui aussi très étonné par l'ampleur de cette grève ou pas? Est-ce que c'était pas ça le pari?
C'était effectivement l'idée que peut-être qu'en défendant des régimes qui paraissent très spéciaux et très privilégiés, l'opinion publique prendrait à témoin, voilà, il se dirait c'est pas possible, ils ne peuvent pas être seulement des privilégiés. Là où le gouvernement effectivement a raté la marche, mais c'est il a raté la marche parce qu'il n'arrive pas à expliquer. J'entendais une éditorialiste de France Inter.
La marche est déjà ratée, vous.
Un petit peu, c'est-à-dire que on nous propose une réforme qui se veut très moderne, une réforme où il va y avoir un système de réforme universel où tout à coup on va arrêter les privilèges. C'est exactement ce que demandaient les Gilets jaunes. Mais derrière, on est incapable de dire aux gens qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Alors les perdants, ils le savent, hein, parce que ils ont fait leurs calculs, à la RATP ils sont perdants, les avocats, les professions libérales, etc. Mais qui sont les gagnants? On est là autour de cette table, ça fait 10 minutes qu'on parle, on n'arrive pas à... Et j'en parlais avec le monsieur retraite de la CFDT qui dit il y a un problème d'explication, parce que le gouvernement a voulu passer un peu fort en se disant aussi qu'il allait faire des économies, parce qu'il y a quand même deux aspects hein, dans cette réforme. Il y a le système universel, mais il y a eu aussi cette tentation de Bercy qui est en train d'être freinée, de faire aussi des économies, en instituant une espèce de décote, c'est-à-dire qu'on garde l'âge à la retraite à 62 ans, mais on part un peu avant, et puis on perd 5%, je crois, et le gouvernement a essayé Bercy, en tout cas, de jouer la carte de bah, « on pourrait baisser un peu plus » et comme ça, ça permettrait aux retraites d'arriver à l'équilibre un peu plus tôt. Donc, il y a des gens qui ont bien identifié qu'ils étaient les perdants, les gagnants pour le moment. On est bien en peine
si,
de dire
si alors là si, si je nuance quand même parce que quand Delevoye a présenté sa réforme, il y avait quand même des beaux transparents où on voyait la situation actuelle et la situation améliorée. Si grosso modo quand même pour les petites pensions normalement ça va améliorer la situation, les agriculteurs je pense ça va les améliorer également parce que le minimum fixé est quand même plus important que les petites pensions touchées aujourd'hui. Il y a les femmes aussi qui sont avantagées notamment parce qu'on donne des points supplémentaires pour les et la réforme vise aussi finalement à faire en sorte que les personnes qui ont des carrières hachées ne soient pas pénalisées comme aujourd'hui. Mmh. Donc il y a quand même, en tout cas il y a l'idée de garantir à la population un minimum de retraite acceptable, mais avec cette idée effectivement que vous avez quand même intérêt à faire de la capitalisation à côté.
Mais est-ce que le gouvernement est vraiment sûr de lui? Parce que moi aussi j'ai entendu effectivement Jean-Paul Delevoye, et puis donc il y a eu les 64 ans, on en a beaucoup parlé, et puis désormais on est dans la grande concertation, quelque chose qui ressemblera à un espèce de grand débat qui ne sera pas vraiment un grand débat. Finalement, j'ai pas très bien compris où était la date butoir au fond de cette retraite. On a l'impression que on a tout mis dans un package et puis maintenant on est en train d'avancer le plus lentement possible alors que jusqu'à présent les réformes au contraire ont plutôt été faites au pas de charge. Donc est-ce qu'ils sont vraiment sûrs d'eux? Est-ce que c'est le problème des retraites spécifiquement? Non, Françoise Précieuse qu'on prend avec des pincettes
Il y a eu deux sujets. Vous avez un Jean-Paul Delevoye qui avance depuis 2 ans, qui est convaincu que c'est ce qui va sauver le modèle social français et donc qui avance. Là-dessus s'est greffé un problème de financement. Tout d'un coup on a découvert qu'il risquait de manquer 10 milliards d'euros à l'horizon 2024. Donc à Matignon, ils ont dit, voilà, avant de se lancer dans une grande réforme de structure, il faut déjà équilibrer le système. Et donc, c'est là que vous avez eu, en plus de cette réforme du système, le débat sur, il faut travailler plus longtemps, est-ce que c'est 64 ans, ou est-ce que c'est un allongement de la cotisation? Ça a mis très en colère la CFDT, qui a dit, vous pouvez pas vendre une réforme comme ça si vous mélangez les deux. Donc, on est, si vous voulez, avec un Édouard Philippe qui dit, moi de toute façon je cautionnerai pas un système où on est en déséquilibre. Vous avez un Jean-Paul Delevoye qui dit, il faut faire cette réforme parce que c'est vraiment l'incarnation du macronisme. Et vous avez un gouvernement et chaque ministre, par exemple, on n'a pas cité les fonctionnaires, mais enfin les fonctionnaires, notamment les enseignants, vous pouvez pas faire la réforme des retraites pour les enseignants si vous ne revalorisez pas les salaires ou si vous n'intégrez pas leurs primes. Et donc comment vous faites pour augmenter sans faire exploser le budget de l'éducation nationale? Donc quand tous les ministres ont découvert les implications de cette réforme, ils se sont tous arrachés les cheveux.
C'est ce que je vous ai dit, Grande Bondant, est-ce qu'il est vraiment sûr de lui, le
gouvernement?
Et donc,
alors, ce qui va se passer, oui, parce que Macron, visiblement, a pris en charge, donc je pense qu'il va commencer par laisser Édouard Philippe expliquer, et je pense qu'à un moment, Emmanuel Macron interviendra pour essayer de faire en sorte que l'opinion s'approprie la réforme, et il peut jouer à la limite sur en étalant dans le temps, c'est-à-dire partout où ça c'est très problématique en disant attention, vous inquiétez pas, vous ça va prendre du temps. Mais je vous dis le risque à ce moment-là de prendre du temps, c'est que il peut y avoir un autre gouvernement ou un autre président de la République élu qui dira bon moi je reviens en arrière parce que j'en veux pas. Et d'ailleurs c'est la grande angoisse de Jean-Paul Delevoye, c'est que on puisse remettre en cause la réforme si jamais on a un changement de majorité.
J'ai en tête le lapsus du Premier ministre récemment, la réforme n'est pas garantie, la retraite n'est pas garantie. On a bien compris effectivement que tout ça.
Parce que, effectivement,
que ça doit cogiter beaucoup.
C'est ce qu'ils pensent, oui.
Mais il y a un petit côté entre les deux, comme ça, good cop, bad cop, dans l'explication, où effectivement, Emmanuel Macron apparaîtra à la fin comme un juge de paix. Et Matignon, lui, a une feuille de route et essaye de la faire respecter.
Vous parliez des fonctionnaires à l'instant. Je voudrais qu'on écoute Dominique. Bonsoir, Dominique.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Dominique.
Oui, je voulais juste exprimer ma situation. Moi, je suis fonctionnaire territoriale. Effectivement, j'ai un salaire relativement correct, mais il y a une grosse partie de mon salaire qui sont des primes, en fait, et donc qui ne seront pas comptabilisées dans ma retraite. Et j'aimerais savoir quelle est la position du rapport sur ce point.
Merci pour votre question, Dominique. Éric Ayer, est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
Alors, on voit bien que le problème pour les fonctionnaires, c'est qu'aujourd'hui, ils ont 75% des 6 derniers mois, mais on ne prend pas en compte, effectivement, la prime. Et donc là, la réforme, ça va être, il y aura un taux de remplacement qui va être à peu près commun à tout le monde. Donc, pour les fonctionnaires, ça va être beaucoup plus bas. Ça va être, donc, 50 et quelques. On ne sait pas exactement, mais aux alentours de 51-52%. Et donc, effectivement, pour des hauts fonctionnaire qui dont la dernière rémunération il y a 40% de prime, c'est pas si grave que cela parce que effectivement il y aura pas un énorme changement par rapport à la situation aujourd'hui. En revanche, pour des professeurs ou pour d'autres fonctionnaires dont les primes sont plutôt aux alentours de 10%, là oui, ça va être un choc qui va être extrêmement important et donc aujourd'hui la discussion, mais ça a été dit, c'est est-ce que il va falloir intégrer les primes directement dans les salaires. Donc ça, c'est une première question pour assurer une pérennité. Moi, je pense que tout de même, mais j'élargis un peu pour vraiment se dire, est-ce que il y a des gagnants ou des perdants. Je pense que ce que personne a en tête ou pas assez, me semble-t-il, c'est que de toute manière, si on n'avait pas fait de réforme, ce qui était déjà dans les tuyaux, c'est que tout le monde aurait été perdant, c'est-à-dire que globalement la situation allait se dégrader. Alors non pas cette idée que les retraites n'étaient pas assurées, mais que globalement le taux de remplacement, c'est-à-dire que ce que vous avez touché, allait à peu près baisser de entre 20 et 25%, nous dit le corps, à l'horizon 2040. Donc il faut partir du principe que globalement aujourd'hui les pensions auraient franchement baissé. Pourquoi ? Parce que on ne veut pas utiliser une arme qui est-ce qu'on peut augmenter les cotisations ? On ne joue que sur la durée de cotisation ou sur l'âge. Donc, puisqu'on veut 14 points de PIB divisé par un nombre qui va être plus important, on ne peut aller que vers ce système-là avec beaucoup moins de pensions dans l'avenir.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, le raisonnement du gouvernement, ça a été de dire ça. C'était de dire, au fond, on a essayé d'augmenter les cotisations dans le passé et maintenant, à chaque fois qu'on le fait, soit on pénalise l'emploi, soit il y a un ras-le-bol fiscal. On a essayé de désindexer les pensions de retraite et on a vu l'effet que ça fait. Donc, ils partent du principe qu'au fond, les Français ne supportent plus qu'on augmente les impôts, les cotisations ou qu'on baisse les pensions. On a un vieillissement de la population. Comment on fait ? On essaye de faire vivre le système en le rendant plus équitable, c'est-à-dire en faisant en sorte que la charge soit à peu près également répartie, avec cette idée complémentaire que de toute façon, ça suffira pas et qu'il faudra faire de la capitalisation aidée par les entreprises.
Mais ça, la capitalisation, c'est quelque chose qui est très très compliqué pour plein de professions. Enfin, allez en parler aux Gilets jaunes, ils vont vous expliquer que de toute façon, ils n'ont même pas de quoi mettre de l'essence dans leur voiture. Donc, penser à capitaliser, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un mouvement comme ça qui peut être aussi, qui peut à un moment donné échapper au gouvernement si jamais il n'y a pas effectivement une explication et une pédagogie très très importante sur ce qui est à l'heure.
Vous avez raison, parce que quand vous regardez les forces politiques dans la bataille, qui est parti bille en tête contre la réforme, Marine Le Pen, en disant insécurité générale. Et elle s'appuie sur un argument qui est vrai, c'est-à-dire que vous allez avoir une retraite par point. Vous connaissez la valeur du point à l'instant X, mais vous êtes incapable de savoir ce que la retraite sera parce que la valeur du point va évoluer dans le temps. Donc, elle joue sur l'insécurité. La France Insoumise aussi dit pareil. Elle dit c'est de toute façon, on part du principe qu'on peut pas financer davantage les retraites, donc on va vers la pénurie. Et on voit bien que la droite et la gauche n'aideront pas Macron, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de voir comment ils se débrouillent. Et puis si tout d'un coup ça cale, ils vont le lâcher. Donc le seul à peu près enthousiaste de la réforme, c'est la CFDT parmi les syndicats et dans les forces politiques. Il y a La République en Marche, mais il faut une pédagogie de la réforme beaucoup plus forte.
Tiens, puisque cette question revient souvent, je la pose une fois. Quid de la retraite des députés, des sénateurs, des ministres qui ont de bonnes retraites même après une brève carrière ? D'abord, est-ce que c'est encore vrai, Françoise Fressos, qu'on a une bonne retraite après une brève carrière de ministre ou de député ?
Il y a eu quand même beaucoup de nettoyage à l'Assemblée nationale. Moi, je me souviens quand je suis rentrée dans le journalisme politique, il y avait le système de la double cotisation, c'est-à-dire que quand vous faisiez votre mandat de député, vous pouviez avoir un double taux de cotisation pour faire en sorte qu'à la fin de votre mandat, vous ayez une très bonne retraite. Il y a eu quand même beaucoup de progrès faits, de moralisation de la retraite des députés, donc je pense qu'il y a beaucoup moins d'avantages qu'avant.
D'accord. Il y a cette question de Laurent de Pfaffenhoffen, la ville au 5F, qui va avec la question de Sophie que je vais vous poser juste après. Quelle est la différence entre régime spécial et régime autonome ? Parce que finalement, on a peut-être tendance à confondre les deux. Et derrière ceci, il y a Sophie. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, ben, je voulais d'abord effectivement préciser un petit peu les choses parce qu'on entend mélanger régimes spéciaux et régimes autonomes. En particulier, le régime des avocats est un régime autonome, ce qui veut dire d'abord que c'est un régime qui ne coûte pas un sou à la société parce qu'il est intégralement financé par les cotisations des avocats. Que par ailleurs, c'est au contraire un régime qui ramène des sous au régime général, puisque le régime autonome des avocats reverse 80 à 90 millions d'euros par an au régime général. La grosse difficulté, contrairement à ce qu'on a pu entendre tout à l'heure, qui se pose aux avocats, c'est absolument pas que les réserves de leur régime, qui effectivement est relativement bien géré, en partie parce que les avocats prennent en général leur retraite assez tard, c'est le fait que ces réserves rentrent dans le régime général, c'est pas tellement le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est qu'en fait, on dit un euro cotisé vaut la même chose pour tout le monde en termes de droits, sauf que un euro cotisé par un salarié, en réalité, c'est 40 centimes cotisés par le salarié et 60 centimes cotisés par son employeur, et que au niveau des avocats, l'euro intégral sera versé par l'avocat.
Et on a compris ce message-là, et c'est ce qui s'est dit aujourd'hui dans la rue. C'est ça qu'on disait, Eric, hier tout à l'heure, sur ceux qui derrière. J'ai cru entendre même Gérald Darmanin avait dit, en voyant le régime des avocats, que effectivement, eux, en revanche, seront pas bien lotis, en réalité. Non, Eric Heyer?
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a plein de distinctions à faire. Alors, il n'y aura pas un régime universel, ils seront pas dans le régime universel.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça veut dire exemption? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura de toute façon une foultitude d'exemptions au fond?
L'outre-mer, par exemple aussi.
Oui,
les fonctionnaires.
Et puis il y aura des distinctions. C'est-à-dire que, voyez, aujourd'hui, dans le futur régime, un salarié du privé, ça sera 28,12% de cotisation jusqu'à 120 000 euros. Pour un avocat, ça sera 28 jusqu'à 40 000 euros. Donc ça sera pas sur la même assiette. Alors après, il n'aura pas exactement non plus il aura moins de points, et donc au bout du compte, il aura moins. Donc et ensuite, ça va baisser, ses cotisations vont baisser de façon relativement rapide, puisque au-delà de 40 000, ça sera à 12,9%. Donc il y aura des distinctions encore, mais l'idée de l'universel existe sur ils auront moins cotisé, donc ils auront moins de droits, et donc ils auront moins de points au bout du bout. Donc ça va, quelque part ils rentrent dans le régime, mais avec des singularités.
Jean-Vincent, bonsoir. Pardon, vous vouliez ajouter quelque chose,
juste que c'est ce qui rend aussi la réforme si compliquée, c'est que en fait, l'idéal, c'est qu'au fond, chacun arrive à lire ce qui va toucher, ce que l'autre va toucher, et c'était un peu le pari, c'était regarder, c'est équitable. Et en fait, on s'aperçoit que c'est tellement compliqué qu'au fond, il risque d'y avoir encore à perdurer des systèmes particuliers, au moins jusqu'en 2040. Et donc, l'une des visées de la réforme, qui est de dire c'est plus juste, plus transparent, c'est pas évident qu'on atteigne l'objectif.
Et chacun regarde le régime de l'autre et ce que gagne l'autre et ce que fait l'autre. Et on est tous le plus pauvre ou le plus précaire ou le plus riche et le plus chanceux.
Absolument.
De l'autre. C'est peut-être aussi là-dessus, au fond, que compte le gouvernement. Jean-Vincent, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y Jean-Vincent.
Eh bien, il y a une règle écologique qui est universelle pour tous les milieux vivants. C'est que plus un milieu vivant est diversifié, mieux il se porte.
Allez-y, je vois bien où vous nous emmenez, mais je vous en prie.
Il y a une telle diversité dans les formations professionnelles, dans les carrières professionnelles possibles, dans la fatigue des métiers, la durabilité des métiers, qu'il est aberrant de vouloir uniformiser. Le rôle de l'État, c'est de vérifier qu'il y ait de l'équité à l'intérieur de chaque secteur professionnel, qu'il y ait éventuellement des transferts, ça existe déjà, mais vouloir banaliser, standardiser le monde vivant, mais c'est ridicule, excusez-moi.
Équité et égalité sont deux choses évidemment bien différentes. Merci beaucoup.
Mais bien sûr.
Merci Jean-Vincent pour votre question. Eric Heyer, encore une fois, ça souligne l'extrême difficulté à une uniformisation.
Bien
et
sûr.
Et c'est pas le but au
non,
final.
Mais je pense mais que quand c'est... C'est peut-être le péché originel de la phrase un euro cotisé ouvrira les mêmes droits.
Ouais.
Enfin, je sais même pas.
Je pense que c'est un euro, puis finalement on est revenu un peu dessus en disant c'est pas exactement ça.
Et je suis pas sûr que ce soit un objectif. Effectivement, on peut considérer qu'il y a des pénibilités, qu'il y a une espérance de vie qui est différente. Et donc, il faut pas aller vers un euro cotisé ouvre les mêmes droits. Et même en fin de carrière, deux ingénieurs peuvent, avec le même âge, peut-être qu'ils ont pas eu le même début de carrière. Donc, je pense que c'est pas bon comme formule. Alors, de toute manière, cette formule-là, on sait bien que c'était qu'une formule et qu'il allait avoir beaucoup de singularités, qu'on allait tenir compte de la pénibilité, des enfants, d'un certain nombre de critères. Et donc, du coup, on allait finalement sortir de cette taille unique pour arriver à beaucoup de singularités. Mais on voulait, quelque part, mettre tout sur la table. Et je pense que c'est quand même intéressant de mettre tout sur la table pour montrer qu'il n'y a pas des privilégiés forcément d'un côté et des maltraités de l'autre. C'est bien plus compliqué que cela. Et donc, mettons tout sur la table. Ça, c'est pas une mauvaise
idée.
Vive
la complexité.
Et puis, il manque aussi peut-être quelque chose à ce projet qui se veut comme un grand projet de société. C'est peut-être, et la CFDT le dit, elle dit, il manque la pénibilité, il manque aussi la retraite progressive. Et derrière la retraite progressive, comment on arrive à vivre en étant plus vieux? Donc, il va y avoir la question de la dépendance, il va y avoir... Et peut-être qu'en attelant, alors ça devient très compliqué pour le gouvernement, hein, c'est un énorme mécano, mais en proposant un projet de fin de vie après le travail, enfin fin de vie après le travail, fin de travail, de vie, oh là là mon Dieu, quelle horreur, de vie après le travail, un vrai projet de vie après le travail, c'est un lapsus révélateur, peut-être qu'effectivement ça aiderait, parce que les questions de la dépendance se posent aujourd'hui, d'ailleurs on le voit aussi dans les mobilisations, et voilà, c'est peut-être encore un chantier.
Mon Dieu,
c'est terrible.
Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une vertu au débat actuel qui est effectivement extrêmement compliqué. C'est que je pense que l'opinion publique va s'en saisir. En tout cas, parce que régulièrement, vous voyez les rapports du COR, vous savez, le Conseil d'orientation des retraites. Et puis, il y avait le débat, est-ce qu'il faut aller à 64 ans, l'âge et tout. Là, chacun va s'emparer. Mmh. On voit bien qu'il y a un problème à la fois combien on peut mettre pour financer les retraites. Deuxièmement, jusqu'où on fait peser sur les jeunes le poids du vieillissement de la population. Troisièmement, quelle inégalité entre guillemets est-on prêt à tolérer? Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Et donc, je trouve que c'est un moment très intéressant de et je trouve que Emmanuel Macron est quand même prend des risques parce qu'il le fait après le mouvement des Gilets jaunes, au moment où la société française est bousculée. Mais en même temps, c'est un sujet majeur et c'est bien que tout le monde puisse s'exprimer et dire voilà où il veut en aller.
Et en même temps, c'est très très glissant. Ça a toujours été extrêmement glissant pour un gouvernement, les retraites. Est-ce que là, est-ce que le contexte, je pense à la manif des Gilets jaunes à nouveau vendredi, à la grève de la CGT mardi, est-ce que le contexte fait qu'il peut emporter des choses sur son passage, ce mouvement des retraites ou pas?
Par exemple, vous voyez, aux urgences, on aurait pu penser, parce que la grève des urgences continue, on aurait pu penser que les deux thématiques se mêlent. En fait, elles ne se mêlent pas tellement. Ceci dit, même si elles ne se mélangent pas, le fait que certaines professions arrivent à mobiliser et à bloquer le pays, ça, c'est un vrai danger. Donc, il va y avoir plusieurs étapes, c'est-à-dire il va y avoir des négociations avec les 42 régimes existants, il va y avoir un débat public. Et on va voir quels sont les arguments qui peuvent marcher ou pas. On voit que l'opinion publique est assez, elle est inquiète en fait. Elle est inquiète parce qu'elle comprend pas tellement les tenants. Donc on va voir aussi quelle pédagogie Édouard Philippe et Emmanuel Macron sont capables, sachant que vous êtes quand même dans cette espèce de fracture qui s'est créée au moment de la présidentielle, où vous avez le mouvement En Marche qui dit il faut bouleverser le modèle social pour affermir la France. Et vous avez tout un courant de l'opinion qui dit, mon Dieu, la transformation du modèle social, on va encore se faire avoir. Et donc, on va vers quelque chose. C'est ce que Marine Le Pen dit, on va vers une société liquide où on ne sait pas où on est. Ça va être le gros débat. Et dans quelle mesure le gouvernement arrive à sécuriser les Français en disant, non, en fait, on fait ça pour essayer de sécuriser le système.
Et la difficulté de compréhension, Jean-Paul Delevoye était l'invité de France Inter, il n'y a pas si longtemps, le nombre de questions au standard, et là aussi d'ailleurs, prouve bien qu'il y a encore 1000 questions de la part des gens et 1000 interrogations aussi sur leur propre cas. Bonsoir Josiane.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Pardon. Moi, c'était simplement une question. Je pense que certaines personnes sont des hauts fonctionnaires, ont occupé plusieurs emplois très importants. Est-ce qu'il est question de créer un plafond pour que... je ne sais pas comment vous dire, moi, mais... pour qu'il y ait plus d'équité, mais pas de supprimer, bien sûr. Hein. C'est simplement de voir si on peut créer quelque chose.
Merci beaucoup, Josiane, pour votre question. Éric Heyer pour vous répondre. Et ensuite, j'aurais une question subsidiaire pour vous, Françoise Fressos, parce qu'elle est intéressante sur un autre point, la question de Josiane. Donc, est-ce qu'il y a un barème? Est-ce qu'il y a quelque chose? Elle parlait d'un plafond, notre amie Josiane.
Oui, alors, non, mais ça existe, hein, ces plafonds. Donc, globalement, vous cotisez en fonction d'un certain plafond de la sécurité sociale qui est plus ou moins élevé. Alors, ça, c'est le régime général. Ensuite, vous avez déjà un régime à points qui est HGR-CARCO. Et donc, tout ça existe, hein, déjà. Il y a déjà ces plafonds de la sécurité sociale. Et donc, vous cotisez pas sur l'intégralité de votre salaire. Et donc, votre pension n'est pas non plus sur l'intégralité de votre salaire.
Et là, le plafond va être réduit par rapport au système actuel.
Exactement, qui était à 8 fois du plafond.
Il va être à 180 000, je crois, au lieu de 320 000.
À 120 000.
Voilà.
Ça, donc, c'est pour faire les économies.
C'est aussi pour resserrer les injustices du système. C'est-à-dire que les petites pensions seront mieux garanties et les hauts salaires auront moins de pensions. Mm-hmm. Et l'idée étant qu'eux, ils ont les moyens d'aller vers la capitalisation.
Et dans la question de Josiane, il y a aussi beaucoup de choses qu'on a déjà entendues ces derniers mois. Il y a l'idée qu'il y a une caste de privilégiés. Est-ce que ceux-là aussi vont devoir mettre la main à la pâte quand moi, je vais devoir le faire ? C'est un ressenti dans les questions qui revient extrêmement souvent, François.
En fait, le ressenti, c'est au fond, c'est toujours la même question. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que pour financer les retraites, on ne met pas davantage à contribution les revenus financiers. Mmh. Au fond, c'est ça toujours la même question. Et au fond, Emmanuel Macron a tranché la question en disant on est dans un monde ouvert, les capitaux peuvent fuir, on ne peut pas taxer au-delà d'un certain seuil les capitaux parce qu'à ce moment-là, les hauts revenus s'en vont. Et là, le système imaginé, c'est que le plafond de cotisation est quand même plus réduit que dans l'ancien système et que donc, il faudra faire de la retraite par capitalisation quand vous aurez les moyens de le faire.
Éric Lierre.
Je pense que la véritable inégalité, me semble-t-il, c'est plutôt en fonction du marché du travail. Mmh. C'est-à-dire que globalement, on sait qu'on va aller vers une durée de cotisation ou un âge de départ à la retraite qui va être de plus en plus long. Et donc, c'est sa capacité à rester au travail. Et c'est là où l'inégalité va être la plus forte. C'est pas forcément sur le taux de remplacement. C'est-à-dire que globalement, si je suis un haut fonctionnaire, je suis assuré de rester dans l'emploi. En plus, si j'ai commencé à travailler un peu tard, c'est pas grave. Mmh. Je peux rester longtemps, y compris si je suis dans le privé, que je suis un cadre bien diplômé, on passe de on me dit de rester jusqu'à 40, de cotiser 43 ans, 44 ans, je vais rester dans l'emploi, c'est pas grave. En revanche, pour les personnes à moins bonne qualification ou qui sont déjà au chômage, ça veut dire plus longtemps au chômage, ça veut dire des pertes de revenus plus importantes. Et là, je pense qu'elle est là, la véritable inégalité, c'est le taux d'emploi de ces seniors qui est pas le même, quelle que soit la qualification. Et donc, aujourd'hui, on va dire qu'on va accentuer cet effet inégalitaire. Et donc, il me semble qu'une politique qui pourrait aider un peu à cela, c'est une politique d'emploi chez les seniors et des seniors qui ont des grandes difficultés à retourner sur le marché du travail.
J'ai une question, moi, pour vous, justement. À combien est le taux de chômage des gens qui ne sont pas encore arrivés à l'âge de la retraite? Je crois qu'il est énorme.
Alors,
je parle donc dans proche, cet entre-deux.
Alors, non, il est énorme et surtout, je vais répondre indirectement à votre question, mais moi, ce qui me semble important, c'est que toutes les réformes des retraites qui ont poussé à rallonger l'âge ont eu une double conséquence, une conséquence positive, c'est-à-dire que le taux d'emploi des seniors a augmenté, ça c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour notre système, mais le taux de chômage a augmenté de 3 points aussi. Donc ça veut dire que globalement, c'est là où ça devient complètement inégalitaire, c'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié des personnes qui arrivent au chômage, qui arrivent à la retraite, qui étaient au chômage. Et donc là, on va accentuer cette période-là, et c'est ça qui est sans doute compliqué à entendre quand on est déjà au chômage. On dit, ben non, mais il va falloir que tu patientes au chômage avant de toucher ta retraite.
Est-ce que, très rapidement, on n'a pas le temps de prendre la question de Jean-Paul à Épinay-sur-Seine, mais qui demande qui décide de la valeur des points? Est-ce qu'on peut rapidement répondre à ça?
Bonne question. Ouais. Alors, il y a tout un débat sur la gouvernance, c'est-à-dire est-ce que ça va être l'État, est-ce que ça va être les partenaires sociaux, selon quels critères? Et au fond, c'est une des questions qui n'est pas tranchée, parce que, au fond, celui qui a le pilotage du système tient vraiment les manettes. Et ça, je pense que le gouvernement fait tout pour ne pas les perdre et que les partenaires sociaux font tout pour l'avoir.
Une toute dernière chose, est-ce qu'on y croit à l'idée d'une sorte de grand débat bis, en fait, d'une consultation autour de ces sujets-là? Est-ce que ça va mobiliser les gens jusqu'à participer à ce genre d'événement, ou est-ce qu'on ne risque pas d'avoir encore un grand débat?
Le risque, c'est que ça ne sera pas de toute façon le grand débat auquel on a assisté dans la mouvance des Gilets jaunes, parce que là, il y avait vraiment un enjeu politique pour Emmanuel Macron de retrouver le contact avec les Français. Le débat est extrêmement technique, donc ça aussi, c'est une difficulté. Mais ce que je pense, c'est qu'à un moment, il y aura une parole de Macron pour essayer de synthétiser tout ce qui s'est passé dans la société, essayer de dire... Parce qu'au fond, une des cordes de rappel qu'il a aussi, c'est de dire, moi je fais rien contre la volonté des Français. Donc il peut à un moment dire, je vous ai entendu, j'ai compris que ça vous inquiétait, donc voilà les ajustements qu'on va faire. Donc moi je le vois plutôt comme ça. C'est pas un président de la République qui sera au contact du terrain tout le temps, mais plutôt quelqu'un qui va tirer les leçons de ce qu'il entendra.
À suivre, c'est le moins qu'on puisse dire sur ce dossier-là. Merci beaucoup, merci à tous et merci à tous pour vos nombreuses questions. Portez-vous bien.